Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi. Cette semaine, vous avez suivi les deux buts de l'examen du recours du vice-président Jean-Pierre Bemba contestant la victoire de Joseph Kabila au second tour de l'élection présidentielle. Par la même occasion, vous avez également entendu parler du pillage et de l'incendie de certains locaux de la Cour suprême de justice. Une autre actualité qui défait la chronique, cette fois-ci en Ituri, dans la province orientale, c'est cette découverte d'une trentaine de corps de civils enterrés dans des fosses communes dans un camp FRDC à Bavi, une localité située au sud de Bunia. Nous commentons cette actualité ce soir avec Nancy Odia, directrice des informations au Congo Web Télévision, Patrick Mouyaya, directeur des informations à CBS, Herbert Kadedem, directeur de programme de Kasaï Horizon Radio-Télévision, et Ferdinand Ferrella, journaliste à La Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir.
Encore une fois, bonsoir et merci d'écouter Radio Okapi. Après deux jours de suspension, la Cour suprême de justice a repris ce vendredi matin dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères l'examen de la requête de Jean-Pierre Bemba contestant les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle telle qu'est publiée par la CI. Nous n'allons pas donc nous pencher sur cette nouvelle, mais parlons plutôt de la série d'incidents qui a caractérisé les débuts de l'examen de cette requête de l'Union pour la Nation mardi dernier à la Cour suprême de justice à Kinshasa. Il y a eu entre autres de manifestations devant la Cour, ensuite des crépitements de balles qui ont eu comme résultat le pillage du bâtiment de la Cour et son incendie. Alors notre confrère Guy Maté était présent à cette audience suivant les récits qu'il avait fait de cette journée.
L'audience de ce matin, la première, était consacrée à la forme de la procédure. Dès l'ouverture de l'audience, les collectifs des avocats du MLC ont évoqué le principe constitutionnel selon lequel toutes les audiences doivent être publiques. Pour ce premier incident, la Cour a suspendu l'audience et s'est retirée pour délibérer et quelques minutes après, la Cour a autorisé la presse d'assister. Tout cela s'est déroulé pendant que dans les environs de la Cour émanaient des tirs à l'arme légère. La séance a été levée à nouveau après que le collectif des avocats du MLC a soulevé le fait que deux des cinq juges de la Cour auraient des liens de parenté avec le chef de l'État. La Cour, qui s'est une fois de plus retirée, a estimé que la question était complexe. Elle décidera de lever la séance sans fixer le délai de la prochaine séance, signalant qu'elle notifiera les collectifs des avocats à ce sujet. Alors que nous nous apprêtions à sortir de la salle, il y a eu un mouvement des gens venant de l'extérieur et se dirigeant dans la salle d'audience. Des coups de feu nourris se poursuivaient. C'était le sauve-qui-peut et la confusion. Certaines personnes se nichaient dans le couloir de la Cour suprême de justice. Quelques minutes plus tard, des jeunes gens se sont mis à piller certains bureaux de la Cour suprême de justice, emportant chaises, ventilateurs, ordinateurs et d'autres matériels des bureaux. Lorsque nous avons quitté les lieux, nous avons aperçu les feux dans les locaux pillés. Voilà comment s'est présentée la situation à la Cour suprême de justice ce matin.
Voilà, Patrick Mouyaya, quelle lecture faites-vous des événements de mardi dernier à la Cour suprême de justice?
Premièrement, ce sont des événements qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Rien ne peut justifier que l'on s'en prenne de cette manière à une Cour suprême de justice qui était pourtant en train de se prononcer sur la requête du mouvement des libérations du Congo. Les dispositions sécuritaires étaient prises, mais apparemment, elles n'étaient pas suffisantes pour contenir la masse qui, sans raison valable, de mon point de vue, a versé dans ce qui est arrivé, dans ce qui est vraiment déplorable à ce jour.
Alors, Nancy Odia, certains médias ont parlé des chances de tir entre un groupe de manifestants et la police, mais ce qui est curieux jusque-là, personne ne sait établir les responsabilités et dire par exemple qui sont ces civils, puisqu'on parle de manifestants, qui étaient en possession des armes et qui ont pu mettre en débandade tout cela qui était commis à la sécurité même de la Cour suprême de justice. Comment analyser cette situation?
Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà environ 200 manifestants qui étaient dehors, en dehors de la salle d'audience. C'est vrai que l'audience était censée être publique, mais elle était plus que publique. Elle s'est transformée en un lieu de manifestation. Bon, ces manifestants, on sait de quel camp ils étaient. il y a eu ces petits troubles au niveau de l'audience. Déjà, il y a la partie de l'UN qui condamnait le fait qu'il y avait des magistrats qui étaient proches d'un camp, c'est-à-dire celui de Joseph Kabila. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu, on les a dispersés. Les cadres de l'UN ont été évacués par des militaires. Il y a eu affluement vers la résidence du vice-président et on a pillé, on a brûlé des histoires, on a aussi incendié la Cour suprême de justice. Mais qui a fait ça? Bon, à l'heure où on en est, c'est vrai qu'il y a des indices qui prouvent que c'est l'un des candidats ou soit les manifestants qui étaient de l'UN qui seraient à la base de ces incidents. Mais comme de l'autre côté, on nie les faits, parce que les cadres de l'UN disent que quand l'incident s'est déclaré, tous leurs manifestants étaient déjà évacués du lieu. Donc c'est soit la police, soit que les autres personnes qui étaient là qui ont mis le feu à la Cour suprême. Mais il faudrait à ce stade qu'il y ait des enquêtes pour qu'il y ait véritablement des sanctions, parce qu'une Cour suprême, c'est la sommité, c'est quand même la haute instance judiciaire. C'est grave comme incident et ça ne peut pas passer comme ça inaperçu.
Oui, Ferdinand Ferrella, également aux États-Unis, parce que vous êtes journaliste à La Voix de l'Amérique, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, cette information?
Alors évidemment, je n'étais pas sur place, hein, et donc tout ce que je peux faire, c'est un commentaire de l'extérieur. Moi, ce qui m'a surpris de prime abord, c'est le fait que quelques 200 manifestants puissent déborder les forces de sécurité, aussi bien nationales qu'internationales. Dès lors que Jean-Pierre Bemba avait introduit son recours devant la Cour suprême de justice, dès lors qu'il y avait une perception aussi à Kinshasa que cette Cour suprême de justice n'est pas tout à fait indépendante, on pouvait s'imaginer qu'elle pouvait devenir la cible de manifestants. Donc je crois que les incidents qui ont eu lieu cette semaine soulignent les failles un peu du dispositif de sécurité à Kinshasa. L'autre remarque, eh bien, je citerai Jendayi Fraser, qui est le numéro 1 des affaires africaines au département d'État américain, elle est secrétaire d'État adjointe. Et on a eu l'occasion de l'interviewer cette semaine et lui demander ses réactions à ce qui s'était passé à Kinshasa. Et elle a dit, mais comment est-ce qu'on peut à la fois introduire un recours devant une Cour suprême et brûler une partie des locaux de cette même Cour? Donc il y a une démarche un peu paradoxale chez les partisans de Jean-Pierre Bemba. Dès lors qu'ils ont choisi d'introduire ce recours devant la Cour suprême de justice, il faut qu'ils fassent confiance à cette Cour pour prononcer un jugement, sinon ce n'est même pas la peine. Bien sûr, il y a eu cette question des juges qui auraient des liens de parenté avec le chef de l'État sortant. Il faut trancher cette question, bien entendu, mais il faut qu'elle se tranche dans la sérénité et ce n'est pas en incendiant des locaux qu'on va le faire.
Oui, bien sûr, Ferdinand Ferrella, il y a certains médias qui indexent directement les gardes du vice-président Jean-Pierre Bemba d'avoir participé à cette action. Mais Fidel Babala, qui est directeur de cabinet adjoint du vice-président Jean-Pierre Bemba, a démenti formellement cette information, allant jusqu'à insinuer un montage.
Oui, alors d'après nos correspondants, il y aurait eu effectivement des coups de feu qui auraient été tirés par la garde de Bemba quand les manifestants ont reflué vers la résidence du vice-président. Et à ce moment-là, il y aurait eu des coups de feu effectivement tirés par la garde de Bemba. Mais ce que je dirais, c'est que la bonne nouvelle des dernières 24 heures, c'est que, vous le savez, c'est que les gardes affectés à Jean-Pierre Bemba ont commencé à se retirer de la ville. Il y a une cinquantaine d'entre eux qui sont partis hier matin pour se redéployer à Maluku. Et d'après l'entourage du vice-président Bemba, ce redéploiement va se poursuivre. Donc on peut quand même espérer que les prochains jours, il y aura moins de concentration d'hommes armés dans Kinshasa et plus particulièrement la Gombe. Et que, ma foi, il y aura peut-être une détente, mais il faut absolument que aussi bien la MONUC, le FORC et les forces de sécurité nationale revoient un petit peu le dispositif de sécurité à la lumière de ce qui s'est passé cette semaine autour de la Cour suprême de justice.
Oui, le fait de loger certains militaires de Jean-Pierre Bemba est parmi les mesures qu'on a prises pour sécuriser le lieu. Patrick Mouyaya, pensez-vous que cela va apaiser la situation?
Oui, certainement, des part et d'autre, puisque sont ces militaires qui sont pointés par certains comme étant responsables de la situation qui a prévalu et qui a conduit aux incidents qui ont été déplorés à la Cour suprême de justice. Moi, je ne voudrais pas coller ces militaires à la personne de Jean-Pierre Bemba, dans la mesure où les tenues qu'ils reçoivent, ils sont payés quotidiennement par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui arrive, c'est que, Ferdinand l'a relevé tout à l'heure, toutes les dispositions sécuritaires autour de la Cour suprême de justice ne l'ont pas été. Et comme on a commencé à les redéployer vers Maluku, encore que vers Maluku, ce n'est pas totalement sûr qu'ils seront totalement contrôlés, même si le ministère de la Défense tient à préciser que toutes les dispositions ont été prises à cet égard. Mais par rapport au fait qu'ils les éloignent de la ville, c'est un signe d'apaisement, puisqu'il faut le dire, beaucoup des Kinois sont ceux qui évitent carrément de passer sur l'avenue de la Justice ou en face du cimetière de la Gombe, de peur qu'il n'y ait une étincelle qui conduirait à un certain dérapage ou qui conduirait à des incidents. Mais les éloigner de la ville est une chose, mais prendre des dispositions réelles pour leur intégration dans l'armée ou pour la réduction de leur capacité de nuisance est une autre. Et je présume que comme le vice-président Bemba avait donné son quitus dans le travail qui est en train d'être fait par les ministères de la Défense, ils y penseront et ces militaires n'essaieront plus seuls ceux du vice-président Bemba, mais plutôt ceux qui sont réellement de forces armées de la République démocratique du Congo, puisque c'est de là qu'ils reçoivent leurs subsides de vie principalement.
Est-ce une garantie, Nancy Audiac, le fait de délocaliser ces militaires, cette fois-ci, chaque fois qu'il y aurait un incident ou des affrontements, on ne pourrait plus indexer directement les gardes de Jean-Pierre Bemba?
D'abord, il paraît qu'ils sont à environ 1 000 000. Avec femmes et enfants. Hier, on en a délocalisé une cinquantaine avec femmes et enfants, bien sûr. Les opérations se poursuivent, ils vont à Maluku, mais là, ils sont pas désarmés, ils ont toujours leurs armes. Ce qu'il faudrait faire, c'est comme il y a eu ces problèmes de brassage de l'armée qui s'est posé, maintenant, il faudrait rattraper le processus, il faudrait qu'on leur ôte d'abord leurs armes et qu'on essaie de les intégrer en bonne et due forme, du moins pour ceux qui ne l'ont pas encore été au sein des FARDC. Mais ce sont des militaires qui appartiennent à l'armée nationale congolaise et tout ça. Et donc c'est vrai que ça crée un peu de tension. Il faudrait qu'il y ait quand même une certaine tactique de le faire parce que du côté du vice-président Jean-Pierre Bemba, on n'est pas très sceptique par rapport à ce désarmement. Mais seulement Jean-Pierre Bemba voudrait que ça s'efface d'après des dispositions consenties, qu'il soit prévenu de l'heure, du jour, des dispositions prises et que ça ne crée pas des incidents, mais on ne sait pas comprendre pourquoi Jean-Pierre Bemba n'a pas pris part à la réunion au cours de laquelle ces décisions ont été prises. Là encore, c'est bizarre. Bon, il y a quand même un ultimatum qui a été lancé de 48 heures qui expire ce soir. Et demain déjà, est-ce qu'on procédera au désarmement ou est-ce qu'on va continuer simplement à les délocaliser? Ça aussi, c'est notre problème. Pourquoi le FOR et la MONUC, par exemple, n'interviennent pas dans ce processus?
C'est vrai qu'il y a... Le FARDC aurait, ou bien le gouvernement congolais aurait refusé ces soutiens-là.
Mais pourtant, on sent qu'il y a une sorte de conflit entre les deux forces, les FARDC et la garde de Jean-Pierre Bemba. Ils sont côte à côte en face de la résidence du vice-président. Ça peut barder à tout moment. Si on essaye de les désarmer de force, peut-être qu'ils peuvent résister. Et s'il y a résistance, c'est-à-dire qu'il y a échange de tirs, c'est mieux que ce soit une force neutre, le FOR ou la MONUC, qui le fasse pour éviter le pire. Ça, en tout cas, c'est ce que je pense.
Oui, alors tantôt là, je disais que des médias ont tendance à lier directement la présence des gardes de Jean-Pierre Bemba aux événements qui se sont déroulés dernièrement devant la Cour suprême de justice. Hier, il y a eu un communiqué du MLC. Ces communiqués demandent qu'il y ait une enquête et que les responsabilités soient rétablies. Donc le MLC, Patrick Meyer, ne reconnaît pas que le garde de Jean-Pierre Bemba sont impliqués dans cette affaire.
Breuil, si j'étais du MLC, je réagirais de la même manière. Il y avait un mouvement de masse. Et dans la masse, on ne sait rien contrôler. C'est vrai que principalement, ces manifestants étaient à la Cour suprême de justice pour soutenir l'initiative prise par l'MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, mais dans ces manifestants, il peut aussi s'y glisser des personnes qui sont là pour nuire sérieusement. Si aujourd'hui l'on pointe directement du doigt les militaires commis à la garde du vice-président Bemba, c'est puisqu'ils sont situés à proximité de la Cour suprême de justice et que dans un passé récent, ils ont quand même été pour une grande part dans ce qu'il y a eu comme événement malheureux dans Kinshasa. Ce n'est pas à tort qu'on les pointe du doigt, mais c'est non j'ai pas non plus à raison qu'on doit dire que c'est directement une enquête, mais encore que là, il faut craindre que les enquêtes que nous avons vues ici n'aboutissent pas à donner des
mais on pourrait également prendre l'option d'une manipulation, parce que toute personne civile peut s'infiltrer dans ce groupe des manipulations.
Et justement, la personne peut venir, notamment pour salir l'image du vice-président Jean-Pierre Bemba. C'est une hypothèse qu'il ne faudrait pas exclure, mais c'est qu'il faudrait... Et c'est qu'à ce stade, comme des mesures ont commencé à être prises, ces mesures doivent être réellement faire suivre dans les faits. On a vu le vice-président Roubero tout à l'heure s'étonner que l'on s'en prenne au dernier rempart de la démocratie. C'est quand même des faits qui sont assez graves et que pour le cas de la Cour suprême, je souhaite ardemment que le gouvernement de transition prenne toutes les dispositions pour punir et les exécutants et le commanditaire de cette odieuse affaire.
Oui, Ferdinand Ferrella, une autre mesure prise par les autorités, c'est serrer court donc à l'armée pour sécuriser les enceintes même de la Cour suprême de justice, et bien sûr on les voit déployer aussi dans d'autres lieux tels que le cimetière des Lagondés. Pensez-vous que cette mesure va aider à résoudre le problème et à calmer la tension ici à Kinshasa?
Tout renforcement du dispositif de sécurité autour des locaux de la Cour suprême de justice, quel qu'il soit, hein, sera toujours bénéfique dans la mesure où il faut que ces juges puissent travailler dans la sérénité, comme je le disais tout à l'heure. Mais la question qui se pose pour moi, c'est la suivante, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un problème autour de la garde de Jean-Pierre Bemba? Rappelez-vous que dès le mois de septembre, on avait décrété Kinshasa ville sans armes et personne ne pouvait circuler dans la ville sans un ordre de mission lui donnant expressément le droit de porter une arme. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec ce flou autour de la garde dite de Jean-Pierre Bemba. Après tout, ce sont, vous l'avez dit, des soldats des FRDC et on ne sait même pas exactement quels sont les effectifs. Hein. Certains parlent de 200-300, d'autres disent 600, d'autres disent 1000.
900, 1000.
Pourquoi est-ce qu'on... Oui, pardon.
Je disais, d'autres parlent encore de 900, même 1000.
Voilà, c'est donc, ça. Donc on ne connaît même pas, alors que ces soldats sont affectés au FRDC, on ne connaît même pas exactement les effectifs de la garde qui est donc affectée à Jean-Pierre Bemba. Alors la question qui se pose est la suivante, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que Jean-Pierre Bemba dispose après tout d'une protection internationale? Il y a suffisamment de soldats de la Monique et de l'Euphor à Kinshasa pour garantir sa sécurité. L'autre question qui se pose, c'est pourquoi la garde présidentielle est toujours active et n'a pas été intégrée dans les forces armées congolaises, parce que ça c'est le grand argument de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi est-ce que le président Kabila pourrait avoir une garde prétorienne, hein, et pourquoi lui, en tant que vice-président, ne pourrait pas avoir aussi sa garde rapprochée, compte tenu du fait qu'il est persuadé qu'on a essayé de l'assassiner au lendemain de la proclamation des résultats du premier tour. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation inextricable qui aurait pu être clarifiée bien avant que ces incidents éclatent, simplement en mettant au point un dispositif de sécurité autour de tous les candidats à la présidence au premier tour et au deuxième tour, bien entendu, autour des deux candidats qui étaient restés en lice. Et aujourd'hui, effectivement, la situation reste explosive parce que même, comme on l'a souligné, si le redéploiement a été fait, ces soldats sont encore en armes et malheureusement, ça souligne toutes les défaillances du système de brassage et d'intégration de l'armée congolaise qui devra être l'une des toutes premières priorités, à mon sens, du prochain chef de l'État congolais.
Oui, Patrick Muyaya, alors il y a ces dispositifs-là qui ont été pris, mais est-ce que quelque part on peut dire que il y a une part de responsabilité auprès de nos autorités de n'avoir pas prévenu ces incidents-là alors qu'il fallait s'y attendre?
Il fallait véritablement s'y attendre et certains disaient que le président de la République, sentant ses mal arrivés, a choisi de nommer des militaires à la tête du ministère de l'Intérieur, à la tête du gouvernorat de la ville. Cela se justifie quand on voit l'amiral Liwanga, quelques heures après les événements qu'il y a eu à la Cour de Suprême, recourir directement à l'armée et frapper sur un temps ferme qu'en cas de récidive, c'est l'armée qui interviendrait. Et c'est que d'une certaine manière, on pensait que cela devrait arriver. Mais cela relance la polémique autour même du brassage de l'armée. On a senti des parts d'autres principalement des belligérants, comme une volonté d'avoir une alternative militaire à ce qui se faisait. Les armes qui retentissent du côté de la garde du vice-président Jean-Pierre Demba, je présume, ne sont pas toutes celles des forces armées de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, la garde présidentielle en détient aussi, ce qui ne rassure pas l'un, ne rassure pas non plus l'autre, puisque même le président de la République le relève dans sa dernière interview en disant qu'il y avait des risques à des déstabilisations de la ville qui partirait de la capitale. Mais puisqu'il faut regarder l'avenir, le vice-président Jean-Pierre Bemba ou le président Kabila, l'un de ceux qui sera confirmé président après la Cour suprême de justice, il faudra penser à sécuriser l'autre. Si aujourd'hui, ils ont dit par exemple que la garde de Jean-Pierre Bemba est estimée à 600-630, il faudra la réduire sensiblement, la réduire et s'assurer que les hommes qui ont fait partie de la garde seront réellement partis en brassage. Et que de l'autre côté, le président élu, à qui incombe la responsabilité de sécuriser l'autre, prendra toutes les dispositions pour leur assurer la sécurité. Là, c'est aussi une autre question. C'est aussi une autre question. Quels hommes il faudra donner? La communauté internationale doit-il encore investir des hommes? C'est des questions qui tournent autour. Mais je voudrais finir pour relever que la décision prise il y a quelques jours par l'amiral Liwanga Mata a donné du répondant sur terrain. Les choses semblent avoir s'être calmées au niveau du centre-ville, mais on espère cependant que cette cohabitation qui semble exister arme face à face entre les éléments de la 7e brigade qui ont été de la 7e brigade brassée, qui ont été spécialement envoyés pour servir à évacuer la garde du vice-président Bemba et qui veille sur eux et à Maluku et à Kinshasa, ne recourront pas aux armes pour régler quelques petits différends qui peut toujours y avoir entre militaires.
Oui, Nancy Audin, est-ce que vous avez la même crainte que les choses puissent finalement déborder et qu'on puisse assister également à des échanges des tirs entre cette brigade intégrée et cette garde du vice-président Jean-Pierre Bemba, tel que les déploiements s'est fait sur le terrain?
Voyons comment ça va se passer à partir de la journée de demain. Déjà, il y a des gens qui nous font des messages comme pour dire restez à chez vous, voyez comment ça va se passer. Ben nous prions, nous sommes quand même optimistes. Nous croyons que le bon sens va primer sur tout. Mais c'est vrai qu'il a sa garde pour sa sécurité, mais je sais qu'à Santiti, il s'était mis d'accord pour que le vice-président n'ait droit qu'à 15 hommes en armes, sans compter les hommes de la MONUC.
On avait ajouté jusqu'à 100.
Depuis les derniers accords. Donc il faudrait que ce soit respecté à ce stade, du moins, puisque ce sont les accords, il faudrait que ce soit fait tel qu'ils se sont convenus. Mais justement, par rapport à ces déploiements, à tout ce qui se passe, on ne peut pas seulement craindre qu'il y ait un débordement du côté des hommes en armes, même du côté de la population aussi. Jusque-là, Jean-Pierre Bemba n'a pas demandé à ses militants de rester calmes. Lui et ses lieutenants disent plutôt à son électorat de rester vigilant. Quand il parle de la vigilance, comment il conçoit le terme? Est-ce à travers des manifestations publiques? Nous voyons la police déployée par-ci, par-là. C'est vrai
aujourd'hui,
que c'est un droit, ouais. C'est vrai que c'est un droit leur reconnu par la Constitution. Ok, mais il faudrait que quand ils envoient leurs militants sur le terrain, qu'ils arrivent à les contrôler. On l'a vu lorsqu'il revenait de sa campagne à l'intérieur du pays. Il y a la haute autorité des médias qui a été pillée. Il y a eu beaucoup d'organes qui ont été victimes. Et on a encore vécu une scène analogue dernièrement à la Cour suprême des justice. C'est-à-dire que quand ils sont sur terrain, on n'arrive pas à maîtriser ces hommes qui manifestent. Et puis, le problème, c'est que quand il y a la police anti-émeute qui intervient, il y a une répression militaire de la garde du vice-président. Comme s'il y avait maintenant des affrontements entre la police et cette garde, c'est pas bon du tout. On a même vu dans les images cette garde en train de désarmer des policiers abandonner leur tenue et c'est faire passer pour des civils juste pour sauver leur vie. On a vu tout ça, c'est pas bon du tout. Je crois que il faut qu'il arrive quand même à se prononcer ouvertement, qu'il demande aux populations de rester calme. Ça ne profite pas de voir du sang couler. Il y a déjà 3 500 000 morts après la guerre. Donc, il faut que nous arrivions à vivre les retombées des élections que nous venons d'organiser.
Oui, mais soulignons quand même que quand on parle de cette garde, il est difficile de dire que ce sont des militaires parce que les personnes qui s'adonnent à ces actes-là sont quand même en tenue civile. Donc, difficile de dire exactement si, si réellement ce sont des dégâts de vice-président Jean-Pierre Bemba.
Excusez-moi, le gouverneur, il va sans droit, sans les gants dans les mains pour identifier. Si le gouverneur a choisi de recourir à l'armée, c'est puisqu'il estime que la police qui utilise des moyens non létaux pour disperser la masse ne peut pas se retrouver en face avec deux hommes qui se déguisent en civil et qui ont des armes, visiblement avec l'intention de nuire. Nous sommes dans un contexte où les autorités compétentes considèrent que de l'autre côté, ce n'est plus qu'une affaire de manifestants, c'est aussi une affaire des militaires déguisés, parfois en tenue coutumière ou déguisés en civil et qui sont là avec une volonté délibérée de semer la terreur. Ça, c'est le point de vue du gouverneur de la ville.
Ferdinand Ferreira, est-ce que vous avez la même impression?
Oui, tout à fait. Le gouverneur de la ville, cette semaine, a dit clairement que si on utilise des armes de guerre dans la rue, eh bien, il faut répliquer par des armes de guerre. Hein. Donc, à partir du moment où on est dans cette logique, le risque de l'escalade est là. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nancy, parce que c'est très important, finalement. Jean-Pierre Bemba n'a pas véritablement lancé d'appel au calme. Hein. Il aurait pu le faire la semaine dernière, quand il avait dit qu'il introduirait un recours en justice. Qu'il contestait des résultats, certes, mais qu'il souhaitait le faire de manière légale, mais on n'a pas vraiment senti qu'il appelait au calme ses militants. Il a parlé de vigilance, effectivement, mais je crois qu'il aurait été important qu'il le fasse, et ce n'est peut-être pas encore trop tard hein, pour Jean-Pierre Bemba de dire voilà, nous avons introduit ce recours devant la Cour suprême de justice, nous attendons sa décision, nous espérons qu'elle sera juste et équitable, mais dans l'entretemps, soyons patients. Et soyons calmes et essayons de respecter l'état de droit, disons, parce que c'est ça finalement vers lequel on aspire. Le Congo aspire à être un véritable état de droit. Et pour être un état de droit, il faut s'appuyer sur des institutions qui sont reconnues. Alors, de deux choses l'une, soit on les reconnaît et on accepte leurs décisions, soit on ne les reconnaît pas et ce n'est même pas la peine d'introduire des recours. Donc, c'est important que le candidat Bemba calme le jeu et que de son côté, dans le camp présidentiel, on ne montre pas seulement les muscles, mais aussi on fasse appel aussi à un climat de sérénité dans les prochains jours qui vont être cruciaux, effectivement, parce qu'on va trancher une fois pour toutes le résultat de l'élection présidentielle.
Donc nous en sommes là, on attend donc qu'on puisse trancher du côté de la Cour suprême de justice qui, comme nous l'avions dit, a repris donc ses activités ce vendredi matin. Nous allons rester toujours dans le domaine militaire, mais nous parlons plutôt d'une trentaine de corps d'hommes, femmes et enfants qui a été découverte dans des fosses communes dans un camp FRDC à Bavi. Bavi, c'est une localité située au sud de Bounia. Nous sommes là dans le district de Litouri, en province orientale. Cette information a été livrée par la MONUC dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi à Bounia. Alors, nous vous invitons d'abord à suivre d'autres détails avec notre concert NNCA depuis Bounia.
Ce communiqué fait état du résultat d'enquête effectuée depuis le mois d'août dernier par la Division des droits de l'homme et l'auditorat militaire garnison de l'Ituri à Bounia. Le porte-parole de la MONUC à Bounia, Mano Djemounouba, nous résume le communiqué.
À Bavi, après deux jours de travail, l'équipe a découvert trois fosses communes qui contiendraient environ 30 corps. Deux officiers des FRDC sont déjà retenus par l'auditorat militaire pour des besoins d'enquête.
Le 3 octobre dernier, Justice Plus, une ONG de défense des droits de l'homme basée en Ituri, a dénoncé la disparition d'une trentaine de déplacés de guerre originaires des villages de Sorodo et de Avegui aux environs de Guéti. Dans son communiqué, l'ONG Justice Plus soupçonnait un groupe de soldats de la 1ère brigade intégrée des FRDC d'être à la base de cette disparition. Pour Godem Piana, l'un des responsables de Justice Plus, ce communiqué de la MONUC ne surprend pas son organisation.
Une semaine après la publication de notre communiqué de presse, nous avions appris des informations supplémentaires qui faisaient état de l'exécution de toutes ces victimes. Personne n'y croyait, surtout que les autorités militaires se livraient à des démentis sans fondement. Nous, ça ne nous a pas surpris parce qu'on était déjà certains que ces gens étaient exécutés.
Selon l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri à Bounia, tous les soldats de la 1ère brigade intégrée des FRDC impliqués dans ces massacres seront poursuivis pour crimes de guerre. Bounia et MNCA Radio Okapi.
Oui, Nancy Odia, que dire de cette découverte macabre?
Un peu comme l'ONG Justice Plus, je ne suis pas non plus très surprise. L'Ituri était un coin du pays où il y a eu beaucoup de troubles, beaucoup de milices ont fait ce qu'ils ont fait là-bas. Donc c'est normal qu'on y découvre après ces cadavres, ces fosses communes où on a enterré beaucoup de gens, 30 personnes, c'est déplorable.
Mais ce qui n'est pas normal dans cette histoire, que ça soit dans un camp des FRDC et qu'on n'est plus à l'époque de la guerre, ce sont les militaires qu'on a envoyés là-bas.
Ouais, c'est pas normal. Il faudrait que ces militaires soient traduits devant la justice et qu'ils soient sanctionnés parce que la vie humaine est précieuse. Donc 30 personnes comme ça qui auraient été massacrées, c'est grave. Et surtout, ce que moi je déplore, c'est le fait qu'il y ait eu une ONG qui a dénoncé le fait plusieurs semaines plus tôt, mais ça semblait ne pas avoir été entendue. L'affaire a semblé être close, mais heureusement qu'il y a eu des enquêtes qui se sont poursuivies au niveau de la MONUC pour établir les faits, mais il faudrait qu'on aille jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y ait des véritables sanctions. C'est vrai que l'Ituri, c'est vrai qu'il y a ce genre de scènes qui se répètent. Je dis ça parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne m'étonne pas, je trouve normal pour un coin où il y a eu toutes ces tensions. Il y a Bounia qui est, et ses environs qui sont contrôlés par la MONUC, par les forces national, mais est-ce que les petits villages au fond sont aussi maîtrisés? Les milices de l'Ituri, qu'est-ce qu'on en fait? Heureusement qu'il y a le procès de Malubanga qui a démarré. Lui aussi, il était un des chefs des milices de l'Ituri. Si du moins ce procès peut arriver à son terme et qu'il y ait des véritables sanctions, ça pourrait permettre de corriger tous ces autres auteurs, fauteurs des troubles en Ituri. C'est vrai que si ces femmes, hommes et enfants sont morts, c'est parce qu'il fuyait des troubles quelque part, il y avait des gens qui s'affrontaient quelque part, donc ça crée des déplacés et ça crée tout ce qu'il y a comme problème. Pourquoi ils ont été tués, ça on ne le sait pas, il faut le savoir, mais pourquoi des militaires en arriveraient à tuer des personnes qui chercheraient juste à se réfugier d'affrontements qui se passeraient quelque part? Ça c'est très bizarre.
Oui, Patrick Mouyaya, que dire également de cette découverte?
Premièrement, c'est quelque chose qu'il faut véritablement déplorer, que cela se fasse cette fois-ci. S'il faudrait désigner les premiers coupables, c'est dans le rang de la première brigade intégrée, malheureusement, qu'il faudra recourir, puisque cela ne peut pas s'expliquer que l'on retrouve de fosses communes dans un camp militaire et que le responsable d'une ONG, de l'ONG Justice Plus, que nous avons entendu tout à l'heure, dit clairement que eux, ils soupçonnaient les militaires d'être le commanditaire ou d'être le responsable de la disparition d'une trentaine de déplacés de guerre. Ce qu'il faut une nouvelle fois, c'est une enquête. Une enquête que nous souhaitons minutieuse et une enquête que nous souhaitons voir l'aboutissement réel avec la traduction devant des juridictions compétentes. Et pour les cas, je pense que ce sera la Cour suprême de justice, puisqu'ils seront poursuivis, pas la Cour suprême de justice, la Cour pénale internationale, puisque les cas flagrants, ça c'est un cas flagrant des crimes de guerre répréhensibles donc par la Cour pénale internationale. Donc c'est qu'il faudrait qu'une enquête minutieuse soit menée de manière paritaire, MONUC, FRDC et peut-être ONG, pour qu'on fasse la lumière sur ce qui est arrivé et mettre la main sur le coupable pour qu'il soit traduit et qu'il soit puni de leurs actes.
Oui, mais c'est qui est incompréhensible, que comment comprendre par exemple que ces éléments de cette brigade, je vous rappelle, qui sont vraiment le premier à avoir été brassé à Kisangani par les Belges et intégré, puis oublier leur mission de pacifier les touristes et se livrer à de tels actes.
C'est ça qui est beaucoup plus flagrant. Et puis la population qui a fait les frais de ces hommes en armes était une population déplacée. Il faut voir certainement qu'il y a des tireurs de ficelles, puisque une action pareille menée et avoir une volonté d'enterrer dans des fosses communes doit certainement avoir des ficelles, peut-être en dehors de l'armée, qui sait, peut-être qu'il y a encore tous ceux qui ont toujours été derrière les initiatives prises par Thomas Lubango et différents chefs des guerres en Ituri. Il faut justement une enquête minutieuse pour arriver à faire un éclairage sur ces dossiers qui paraît beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer à ces stades, quand il faut voir que ce sont des militaires d'une première brigade qui a été brassée. suppose que ce sont des militaires venus de toutes parts et que ces militaires sont véritablement dotés d'un esprit républicain qui doit caractériser les militaires qui forment la première armée de la République, la première brigade de force armée de la République démocratique du Congo. Il y a vraiment matière à enquête et j'espère que les autorités de la transition, bien avant qu'elles n'aient quitté le pouvoir, pourront faire éclairage sur ces dossiers.
Oui, Ferdinand Ferrella, avec cette découverte, on a finalement l'impression que la guerre n'est pas finie en Ituri et que cette fois-ci, ce ne sont pas des miliciens qui s'entretuent entre eux, mais plutôt des militaires envoyés là-bas, comme je le disais, pour aider à pacifier ces districts qui se rendent également responsables des tueries.
Oui, effectivement, jusqu'à présent, on parlait des massacres commis par les milices. À ma connaissance, c'est la première fois que j'entends parler de massacres commis par les FARDC. Et je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Et j'ajouterai ceci. Des enquêtes, oui, il faut bien entendu des enquêtes, mais rappelez-vous ces dernières années, hein, à chaque fois qu'on a annoncé des enquêtes, on n'a jamais vraiment su comment aboutissaient ces enquêtes. Est-ce qu'on peut me donner un seul exemple d'une enquête qui a été faite de manière exhaustive sur des exactions commises soit par l'armée, soit par des milices, soit pendant la première rébellion par les soldats de l'APR et qui étaient alliés à l'époque à la FDL pour massacrer les réfugiés Hutus. Il y a les massacres dans le sud Kivu qui ont été commis à Makobole, n'ont jamais véritablement trouvé de solution parce qu'il n'y a jamais vraiment eu d'enquête sérieuse en RDC sur tous ces événements. On peut élargir encore le problème. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a véritablement descendu l'avion d'Abiy Arimana le 6 avril 1994? Est-ce qu'on sait véritablement qui a commandité l'attentat contre Melchior Ndadaye? Est-ce qu'on a fait la lumière complète sur l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila? Il règne dans la région une atmosphère d'impunité qui se retrouve à tous les niveaux. Et il ne suffit pas de parler d'enquête, il faut être vraiment sérieux dans ces enquêtes. À partir du moment où on annonce une enquête, il faut qu'on annonce à un moment donné les résultats de cette enquête. Or, je n'ai pas entendu ces dernières années. Rappelez-vous toutes ces différentes enquêtes qui ont eu lieu à Kinshasa sur les présumés putsch de gens qui venaient de Brazzaville, du capitaine Lengue. À chaque fois qu'on a annoncé des enquêtes, on n'a jamais eu le résultat de ces enquêtes. Donc il faut être sérieux une fois pour toutes. Oui, enquête, mais avec transparence et avec des résultats.
Oui, mais cette histoire, par exemple, des Ituri, on retrouve, c'est encore frais. On ne va pas dire que on a perdu déjà les preuves et tout. Pensez-vous que cette culture va continuer ainsi à s'installer et que les autorités laissent passer comme ça et bon, finalement, ça devient normal.
Qui va faire l'enquête? C'est ça la question. Est-ce que c'est l'armée elle-même qui va enquêter sur elle-même?
Sur ces dossiers, on a parlé de l'auditorat militaire.
Indépendante. Pardon?
Sur ces dossiers, on a parlé de l'auditorat militaire garnison de Bounia.
Oui, peut-être on trouvera des boucs émissaires, mais il faudra remonter à la source. Pourquoi est-ce qu'on exécute comme ça des femmes et des enfants qu'on est censé protéger et on ne remonte malheureusement jamais en haut des responsabilités. On trouve toujours des exécutants, mais on ne trouve jamais véritablement les véritables commanditaires et les véritables motifs de ces crimes. À ma connaissance, le seul procès qui est véritablement abouti ces dernières années en RDC, c'est un procès qui a été organisé par la MONUC sur les exactions commises dans l'Équateur contre des femmes. Vous vous rappelez, il y a eu un viol collectif.
Oui, à Solomboyo.
Une centaine de militaires ont été condamnés. Et on a appris, je ne sais pas si c'est le cas encore, s'ils ont été repris, mais j'ai appris qu'ils s'étaient évadés.
C'est triste, mais au fait, moi, en entendant cette histoire, ce qui m'a sauté tout de suite à l'esprit, c'est quand on parle d'une brigade intégrée, on espère vraiment avoir une armée, mais est-ce que ça ne remet pas un peu en cause ce qui sera la future armée congolaise si des unités qu'on dit avoir brassées, formées et intégrées même puissent s'adonner à des tels actes? Patrick Mouyaya.
Il y a de quoi avoir peur pour l'avenir. Il y a de quoi avoir peur pour l'avenir. Franchement, puisque là, on devait avoir affaire à des nouveaux hommes qui ont été brassés, ils ont été dotés d'un esprit d'équipe véritablement républicain, engagé pour le bien de la République. Mais bon, que faire? clair, Ferdinand a révélé tout à l'heure, c'est qu'il faudrait, par rapport à tout ce qui a été abordé comme crime, tout ce qu'il y a eu comme crime, tout ce qu'il y a eu comme massacre en République démocratique du Congo, envisager la création d'un tribunal pénal international, un peu comme c'est le cas pour le Rwanda. Nous voyons tout ce qu'il y a autour du dossier que...
Malgré ses imperfections.
Les imperfections, il y en a, mais les débuts d'une justice constituent en fait une sorte de réparation aux différentes populations qui se sont senties lésées. Et par rapport à tout ça, on sent véritablement l'importance de la mise en place d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo pour faire la lumière sur les différents massacres qu'il y a eu avant la période des 2002, puisqu'il faut le dire, que pour les cas précis, je pense que ça c'est un cas qui concerne la Cour pénale internationale, puisqu'on parle des crimes de guerre, et qui parle de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, relève de la compétence de la Cour pénale internationale.
Oui, Nancy Odia, quel visage offre finalement la future armée congolaise avec de tels actes qu'on commence à dénoncer là en Ituri?
Des problèmes se posent plutôt en termes de finances. Combien touche le moins gradé des soldats de l'armée congolaise? Ça, c'est un problème. On a vu dernièrement qu'il y a des dossiers qui ont été dénoncés, le détournement de l'argent qui venait de l'Union européenne destiné à la solde des militaires. Même ceux qui vont en brassage, ils y vont pour 45 jours et ils y passent plus de 4 mois. Et il y en a qui fuient le camp de brassage, soi-disant que c'est des mouroirs, il y a des épidémies qui naissent. Il y en a qui meurent même, il y a leurs femmes qui ne sont pas prises en charge. C'est des problèmes comme ça qui font que quand on donne une arme à un monsieur qui n'est pas socialement sécurisé, il va se servir auprès de la population. Et comme les militaires ont la gâchette facile parce qu'ils sont pas comme nous, ils passent par des formations, ils appuient facilement sur la gâchette et ils peuvent tuer pour avoir du pain s'il a faim. Oui, ça, c'est un problème. Le gouvernement congolais, en tout cas, doit s'assumer de ce côté-là. Et peut-être à l'avenir, essayer d'améliorer la prime de soldats et que nos frères et peut-être nos enfants envient le militaire comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu, que les militaires des FARDC comme celui des FAS à l'époque soient des messieurs respectés qui ne se serviraient pas auprès de la population.
Oui, Ferdinand Ferrella, nous tournons vers la fin de cette émission. Brièvement, quel visage offre en fin de compte cette future armée qu'on veut bien être intégrée, brassée et qui porte les couleurs même du Congo?
Je le dis plusieurs fois, je crois que la grande priorité du prochain gouvernement va être de s'atteler précisément aux problèmes de l'armée. Si vous y pensez bien, tous les problèmes qu'a connu le Congo au cours des 15 dernières années proviennent de l'armée. Le fait que l'armée nationale n'a jamais été en mesure de protéger ses frontières a permis à des groupes armés angolais, burundais, rwandais de s'installer sur le Congo, sur le territoire congolais, et puis de s'attirer les foudres évidemment des pays voisins. La première guerre a été provoquée par ça. La deuxième guerre a été provoquée par l'incapacité de l'armée congolaise à garantir ses frontières et à défendre le pays. Pourquoi? Parce que sous le régime Mobutu, on n'avait pas véritablement formé une armée, on avait formé essentiellement une garde pour protéger le maréchal, mais pas nécessairement pour protéger le pays. Donc il faut maintenant que le Congo se dote d'une véritable armée qui soit capable à la fois de protéger ses frontières et de protéger ses civils plutôt que de leur pointer le fusil pour leur extorquer, pour leur prendre de l'argent ou pire encore les massacrer. Parce que bon, Nancy soulève le problème de la solde, mais est-ce qu'il y a besoin de tuer des femmes et des enfants pour pallier à ce problème de la solde? Non, il n'y a pas besoin de ça. Donc il s'agit d'exactions très graves et il faut absolument que le prochain gouvernement mette comme toute première priorité la sécurité du pays, et la sécurité du pays ne peut être assurée que par les forces de sécurité qui soient véritablement crédibles.
Voilà.
Que la population soit rassurée quand elle voit un uniforme et qu'elle ne pense pas à fuir parce qu'elle aura peur.
Voilà, merci beaucoup Ferdinand Ferrella, et nous disons merci à Patrick Muyaya, Nancy Odia, et c'est leur dernière donc pour vous tous. Donc nous vous disons au revoir d'avoir participé à cette tribune de la presse tout le long de ces mois. Donc nous commençons le mois de décembre la semaine prochaine, et ce sera avec une autre équipe de journalistes. Donc merci d'avoir cheminé avec nous.
Nancy.
Donc, nous disons au revoir également à tous nos auditeurs. Bon week-end et à la prochaine.
Papi, papi.